Bonsoir. Le secteur minier en RDC présente beaucoup de faiblesses qui handicapent son développement. C'est ce que révèle un audit rendu public mardi dernier à Kinshasa par un cabinet d'audit international. Parmi les faiblesses figurent notamment l'insuffisance de contrôle et de gestion. Ce cabinet recommande entre autres de mettre en place un système performant de gestion financière. Quelle analyse faire de ce rapport? C'est le thème que vous propose Dialogue entre Congolais de ce soir. Nos invités dans cette émission sont Léonide Moupépélé, analyste et directeur général de Bicotim SPRL, une structure qui traite des questions liées aux mines, à la géologie et aux technologies industrielles. Monsieur Moupépélé, bonsoir.
Bonsoir, Léon.
Al Kitenge, analyste et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Franck Fouamba, fondateur et directeur général de Mining News Magazine. Il est aussi consultant et expert minier. Monsieur Fouamba, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Présente beaucoup de faiblesses qui handicapent son développement. C'est PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit international, qui fait cette révélation à travers un audit rendu public mardi dernier à Kinshasa. Au nombre des faiblesses figurent par exemple l'insuffisance de contrôle et de gestion et la modicité des salaires dans certaines entités du secteur minier. C'était à l'ouverture de l'atelier organisé par le ministre des Mines sur la validation du projet de plan d'action proposé par PricewaterhouseCoopers. Explication Paul Matendo.
Cet audit a porté sur la revue de l'organisation actuelle de la gestion du secteur des mines, la préparation des modèles de gestion financière et humaine qui améliorent la pérennité des institutions publiques du secteur et l'établissement d'un plan d'action budgétisé. Ce, dans l'objectif de fixer un accord entre les institutions et les partenaires du secteur. Pour ce faire, David Mwamba, auditeur de PricewaterhouseCoopers, a rapporté que sa structure a soumis une série de recommandations aux participants.
Pour les ressources humaines, il faudra penser à rajeunir le personnel, le motiver et surtout aussi penser à l'amélioration de l'offre de la formation.
De son côté, le ministre des Mines lui demande aux participants d'élaborer un plan stratégique global pour le redressement du secteur. Martin Kabouloulou.
Il y a des directions qui doivent être renforcées, il y a des directions qui doivent être supprimées selon l'opportunité et les besoins du secteur minier de notre pays. On va sortir un document qui va nous aider.
Cet atelier de deux jours, ouvert mardi, se clôture mercredi. Il réunit les délégués de l'administration centrale et provinciale du secteur des mines, ainsi que les autres services spécialisés tels que cadastre minier, le SAESCAM et le CSC.
Merci Paul Matendo. Léonide Moupépélé, je rappelle que vous êtes analyste et directeur général de Bicotim SPRL, une structure qui traite des questions liées aux mines, à la géologie et aux technologies industrielles. Comment vous analysez ce rapport? Serait-il simpliste de dire que les différentes faiblesses énumérées dans ce rapport, c'est du déjà connu?
Justement, j'irais plutôt dans ce sens-là, c'est du déjà connu. Et c'est pour ça que je me demande quel est l'intérêt de ces énième audit qui est fait dans le secteur minier. Le problème, je crois que c'est tout simplement que nous devons nous-mêmes vouloir la transformation. Nous voulons l'améliorer. Nous devons nous-mêmes vouloir l'amélioration du secteur minier. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, parce que je comprends bien que cet audit a été initié par Promine, qui est une structure qui dépend de la Banque mondiale. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui voulons l'amélioration de la gestion du secteur minier, mais c'est plutôt nos partenaires qui souhaitent, qui en voyant comment le secteur minier tourne, ils voient que ce n'est pas bon, alors ils nous demandent d'améliorer. Donc tant que ça ne viendra pas de nous-mêmes et que ça doit pratiquement nous être imposée de l'extérieur. Ce serait un peu comme si on voulait faire porter un beau pantalon sur une jambe de bois. C'est ça, malheureusement.
Alors, vous avez également une grande expérience dans le secteur minier. C'est du déjà connu, mais ça ne nous empêche pas, pour des raisons également pédagogiques, de revenir sur ces faiblesses. Nous allons aborder les recommandations dans la deuxième partie. Parmi les faiblesses, il y a, par exemple, l'insuffisance des dispositifs de contrôle et de gestion. C'est assez courant, ça.
Oui, non, ce n'est pas que les dispositifs de gestion de contrôle n'existent pas. Ces dispositifs existent. Quand on regarde dans l'ensemble, dans chacun de ces organes qui ont été audités, il y a toujours quelque part une structure qui assure le contrôle. Mais le problème, c'est que généralement, ces structures ne sont pas étoffées de compétences avérées. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, et quand ces structures procèdent à des contrôles, les conclusions ne sont pas toujours mises en application. C'est ça tout le problème. C'est pour ça que je reviens toujours à ce que j'ai dit tout au début de l'émission, c'est que nous devons vouloir nous-mêmes. Ça doit être un processus qui doit venir de nous. Est-ce que nous voulons aller de l'avant? Est-ce que nous voulons nous changer les choses? Tant que nous ne voudrons pas que ce changement ne viendra pas de nous-mêmes, eh bien, il n'y aura qui changera. On pourra faire des tas d'audits. Ce sera toujours, on s'arrêtera au niveau de constat et on n'avancera jamais.
Et donc, à vous comprendre, dans le secteur minier, on navigue à vue puisqu'il n'y a pas d'orientation ou d'option clairement définie.
Ça, ça a toujours été le combat que nous avons toujours mené depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut au départ avoir une vision sur 10 ans, sur 15 ans, sur 25 ans, une vision avec des étapes déterminées. Donc on se dit, sur telle période, voici ce que nous recherchons, voici les objectifs à atteindre, et par rapport à ça, à chaque fois, on marque une pause et on fait une évaluation, et on voit à quel niveau nous sommes. Aujourd'hui, cette vision n'existe pas. Nous avions à l'époque, nous nous sommes battus pour avoir un plan minier. Le plan minier aurait pu constituer ces documents qui donnent justement l'orientation à suivre par rapport à la gestion. Mais ce plan minier s'est arrêté juste à l'élaboration des thèmes de référence. On n'est jamais allé plus loin. Et malheureusement, c'est ça qui nous manque. Et aujourd'hui, nous en sommes réduits à pouvoir pratiquement nous faire imposer des directives par l'extérieur, parce que cet audit, pour moi, c'est une volonté de l'extérieur, je le répète encore.
Alors, parmi les faiblesses, il y a également le manque de traçabilité des revenus collectés au sein du secteur. Vous évoquez là le plan minier qui n'a pas été suivi, qui s'est d'ailleurs arrêté à mi-chemin. Y aurait-il volonté de maintenir une certaine opacité?
C'est un problème très difficile parce que, en fait, lorsque un projet minier est élaboré, avant de l'accepter, il y a une évaluation qui est faite et cette évaluation porte entre autres sur les niveaux de revenus, les niveaux de recettes que l'État congolais peut tirer de ces secteurs. Et généralement, lorsque on regarde ce projet, on s'aperçoit que à ce niveau-là, on propose toujours une rétribution de l'État qui s'élèverait pratiquement de l'ordre de 15 à 17% des recettes, je veux dire du chiffre d'affaires du projet. Donc si aujourd'hui le projet fait, allez, mettons 2 milliards de dollars, l'État congolais serait en droit d'attendre 300 millions de dollars en termes de droits de toutes sortes, c'est-à-dire là-dedans les droits superficiels, les dividendes, etc. Donc tout cet ensemble-là, quand vous le prenez, tous les droits, les droits de sortie, les douanes, etc., quand vous prenez tout ce paquet, on doit arriver en principe entre 15-17% du chiffre d'affaires. Voilà ce qui est dit. Mais lorsque le projet tourne, lorsque le projet fonctionne, on remarque malheureusement qu'on n'atteint jamais ces chiffres. D'abord, on ne sait même pas évaluer parce que les services qui mobilisent les recettes sont tellement dispersés. Vous avez un certain nombre de recettes qui sont constatées, mobilisées par les services des mines, notamment le CAMI, l'administration des mines, etc. Mais d'autres qui le sont par la DGDA, d'autres encore par la DGI. Et toute cette dispersion fait que il est difficile de faire une évaluation. Personne n'est capable aujourd'hui de vous dire exactement ce que les secteurs miniers apportent en termes de recettes publiques.
Alki Tengue, vous êtes analyste et stratège. Vous venez de suivre Léonide Mopepele. Quelle est votre analyse?
Je pense simplement que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et pour laquelle on est en train de se plaindre procède de quelque chose de simple. L'absence totale d'une vocation de notre secteur minier. Le secteur minier, comme tout autre secteur de ressources, essentiellement les ressources naturelles, on sait très bien qu'elles sont épuisables. Ça veut dire qu'en fait, toute personne intelligente, toute organisation intelligente doit savoir réfléchir et planifier au-delà des ressources. On a vu ce qui s'est passé dans le monde. Tous les pays qui ont eu des ressources naturelles pendant un temps et qui ont basé leur stratégie sur ça, ont vu des villes disparaître de manière tout à fait grave. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, si nous désirons regarder dans le secteur minier et penser à développement dans le secteur minier, la première des choses, c'est de pouvoir nous projeter au-delà de l'exploitation minière. Ça sous-entend, on donne une véritable vocation à nos ressources minières. Qu'est-ce que nous voudrons faire des revenus qui viendraient du secteur minier? Première chose. Deuxième chose, à un moment donné ou à un autre, on doit savoir choisir son métier. Aujourd'hui, quand vous regardez le code minier, on ne sait même pas à qui appartiennent les réserves à partir du moment où on les a confiées à un exploitant. Notre code minier est très flou là-dessus. Troisième chose, lorsque vous avez un engagement avec des tiers, vous devez avoir des projections financières. Aujourd'hui, si vous demandez aux officiels congolais combien d'argent vous espériez réellement recevoir du secteur minier, il y a très peu de réponses qui vont venir. Je vais vous donner quelques chiffres. Lorsque les Congolais parlent d'une avancée en matière de production minière, on vous parle d'un million de tonnes. Ils vous disent, nous allons atteindre un million de tonnes. Mais quand on atteint un million de tonnes, on parle de cuivre, on est aux alentours de 8 milliards de dollars de revenus. Lorsque vous prenez, ne serait-ce que les chiffres de mon voisin, moi je prends 20%, nous ne sommes même pas au-delà de 2 milliards de dollars. Alors vous vous rendez bien compte, nous sommes un grand pays de 2 345 000 km² et nous sommes un pays où nous sommes 70 millions aujourd'hui, on nous projette aux alentours de 120 millions de personnes d'ici 2030. Et lorsque vous regardez nos projections en matière de développement, on est largement inférieur. Ça veut dire qu'en fait, le secteur minier dans son état actuel, dans la vision que nous avons aujourd'hui, n'est pas du tout le bon outil pour développer ce pays. Je donne un autre élément. Lorsque vous regardez notre pays et vous regardez le Congo qui est en face et vous regardez l'Angola, nos revenus par tête d'habitant, le budget de l'État, ça veut dire la puissance financière qui est entre les mains des gestionnaires, par tête d'habitant, le rapport est de 1 sur 40. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a aujourd'hui une étude qui est disponible depuis à peu près 4-5 ans. C'est une étude d'un bureau d'études anglais qui dit « Notre pays pèse 24 000 milliards de dollars en termes de ressources minières ». Personne n'a jamais acheté cette étude. Personne n'a jamais dit si cette étude est viable ou pas. Ce serait un point de départ, parce que si nous disposons d'un tel potentiel, en fait, même notre planification doit être de loin plus sérieuse. Le plus gros péché que nous avons dans ce pays, c'est que nous travaillons en toute ignorance. Nous ne connaissons pas la valeur réelle de nos réserves minières. Nous avons un cadastre minier, mais c'est un cadastre géographique. Il n'a aucune connaissance de la valeur scientifique et financière que nous avons sous terre. Et à partir de ce moment-là, toute négociation que nous faisons avec les tiers, et cela est consacré par le code minier, c'est toutes des négociations en toute ignorance. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous retrouvons tout le temps frustrés chaque fois qu'un exploitant commence à mettre en valeur les différentes concessions qu'on lui donne, parce qu'on s'aperçoit qu'on lui a donné pour presque rien tout ce qu'il est en train de mettre en évidence. Et je pense que ça, c'est le point de départ.
Alors, Al-Kitenge, peut-on parler de la malédiction des mines à l'instar de celle du pétrole dans notre pays?
Non, ce serait une erreur grave. Nous sommes plutôt bénis. Moi, je suis un enfant de Dieu, je pense simplement que nous sommes véritablement bénis. Mais la bénédiction, elle ne peut pas être viabilisée si nous n'y mettons pas l'intelligence. Dieu nous a créés intelligents. Il faudrait que l'intelligence individuelle donne l'éclosion à une intelligence collective. Toute la question du Congo, c'est que nous ne planifions rien. Le pays lui-même n'a pas son plan stratégique de développement. C'est à peine maintenant qu'on commence à y travailler. Du coup, même les ressources dont nous disposons pour animer ce plan stratégique de développement, nous ne les connaissons pas. Et regardez, nous avons réussi à mettre l'amiba par terre. C'est une honte, c'est une grosse honte nationale. Ce qui est en train de se passer dans la province orientale avec Kibali Gold Mining et d'autres sociétés minières qui sont dans l'or sont des preuves par quatre qui démontrent de manière assez claire que nous avions les pieds dans l'eau et nous étions des criés de soif. Et ça, c'est valable dans toutes les provinces.
Et Léonide Moupépélé a tout à l'heure souligné qu'il était même difficile d'évaluer combien entre dans la caisse de l'État. Les ressources sont tellement éparpillées.
Ça, ce n'est pas qu'une question du secteur minier, c'est une question générale. Le plus grand illettré dans ce pays, c'est le gouvernement lui-même. Il n'a pas un système d'information intégré. Par exemple, les informations d'importation qui sont à la douane ne sont même pas disponibles dans les autres administrations. Poser la question demain, pour quelle raison, à un moment donné, on a parlé des recettes qui ont disparu, on a parlé de 70 millions de dollars qui ont disparu à la DGRAD, c'est une histoire honteuse. Mais ça montre simplement que nous ne gérons pas au quotidien de manière instantanée. Nous gérons en différé, nous sommes encore un pays qui est sur papier. C'est pour ça que chaque fois que les étrangers viennent nous aider, ils disent, il faudrait que vous alliez vers le e-governance, qui est en fait la gouvernance électronique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'en passer, mais nous avons l'impression que nous pouvons continuer à traîner les pieds.
Nous allons prendre pour vous, Al-Kitenge, cette réaction qui nous vient de Mbujima et au Kassai Oriental.
Sylvain Banza, depuis la ville de Mbujima et au Kassai Oriental. Il est difficile d'éradiquer toutes les irrégularités observées dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo, aussi longtemps que les autorités qui sont censées mettre de l'ordre sont majoritairement actionnaires dans la plupart d'entreprises minières. Donc, ce rapport d'audit va demeurer lettre morte et sans suite favorable, comme d'habitude, en RD Congo.
Réaction à Al-Kitenge.
Sylvain dit quelque chose de simple. Dans tous les pays du monde, cette question de la pratique politique, de la pratique économique, pose la question du conflit d'intérêts. C'est toujours un choix à faire. Soit vous faites des affaires, soit vous faites de la politique. Et quand vous faites de la politique, vous êtes au service de la nation. La nation vous prend en charge et vous donne les moyens nécessaires de faire votre travail, de faire avancer votre famille. Et très malheureusement, c'est une réalité, c'est une tare nationale que nous avons de voir les opérateurs politiques fortement impliqués dans les affaires économiques, essentiellement dans les entreprises publiques et aussi dans les entreprises des tiers où ils veulent prendre des parts. C'est quelque chose d'inacceptable réellement et je pense simplement qu'au fur et à mesure que notre arsenal juridique s'organise, c'est des choses qui devront être gérées par des lois.
La réalisation me signale que nous venons de perdre Franck Fouamba. Le temps qu'on le retrouve, Léonide Moupépélé, il y a Philippe Makomera de Butembo, Nord-Kivu, qui dit « Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a des sérieux problèmes causés par nos propres dirigeants. Ils doivent accepter que même les sociétés minières dans lesquelles ils tiennent des parts d'action payent l'impôt. Sinon, le secteur minier ne tiendra jamais debout. L'État congolais ne profite presque pas suffisamment de ces secteurs. » Un mot également sur l'implication des politique dans le secteur minier.
Ok. Je voudrais d'abord revenir sur un chiffre parce que c'est très important puisque l'occasion m'est donnée. En ce qui concerne le poids financier du sous-sol congolais, Al-Kitenge tout à l'heure rappelait que c'était évalué autour de 24 000 milliards. Je recuse totalement ce chiffre parce que c'est un chiffre fantaisiste qui n'est basé sur aucun support géologique. Son auteur, un certain Valéry Nouri, n'est pas connu dans le domaine minier. Son expertise dans ce domaine n'est pas connue. Et le journal qu'il a publié à Londres, c'est un journal qui n'a pas d'ancrage dans le secteur minier. Donc c'est un chiffre qu'il faut prendre, moi personnellement, je le prends pas au sérieux. Par contre, nous avons fait l'exercice dans le livre que nous avons publié dernièrement et dont nous avons eu à parler ici, l'industrie minérale congolaise, chiffrer des défis. Et là, nous avons évalué les réserves nous avons évalué, disons, tout ce qui est substance estimée à ce jour exploitable, toutes les substances sur lesquelles il y a eu des travaux d'exploration, et nous sommes arrivés au chiffre des 4000 milliards. C'est la valeur que aujourd'hui nous créditons le sous-sol congolais, et je pense que c'est un exercice qui a été un exercice sérieux dans la mesure où nous nous sommes basés sur le support géologique qui existe et qui sont probants. Voilà.
Alors maintenant, pour répondre sur l'implication des politiques, oui, parce qu'on me signale que Franck Fombay est
parmi. Exactement, l'implication des politiques, oui, c'est vrai, Alki Tengé l'a dit tout à l'heure, on doit choisir, soit être homme d'affaires ou être politique. Une fois qu'on est dans la politique, on doit avoir les mains propres. Et ce n'est pas pour rien que dans les démocraties avancées comme la France, les États-Unis, avant de pouvoir se lancer dans la politique, avant d'occuper une fonction politique, on fait d'abord une déclaration de ses revenus. C'est justement pour éviter ce genre de d'amalgame qui font que finalement les politiques essayent de confondre les affaires privées avec les affaires publiques. Évidemment, c'est au détriment de l'État.
Franck Fomba, bonsoir. Est-ce que vous nous suivez?
Bonsoir Alain, je vous suis même.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de Mining News Magazine. Vous êtes également consultant et expert minier. Quel est votre point de vue par rapport à ce rapport? Léonide Moupépélé parlait d'une absence de vision. Alki Tengé, dans le même sens, a lui parlé d'une absence totale de vocation par rapport au secteur minier et à toutes les ressources naturelles.
Je pense que M. Moupépélé et M. Guiteng n'ont pas tort. Parce que c'est évident, ce rapport, c'est une répétition qui ne devait pas avoir lieu, compte tenu de tout ce qu'il y a eu. C'est pratiquement du copier-coller de rapport de la Banque mondiale qui date de 2008 et qui dit la même chose. Or, nous avons évolué aujourd'hui dans le secteur. Je pense que M. Moupépélé l'a dit, et M. Guiteng, nous devions plutôt aller au but directement. La République démocratique du Congo doit aller au but. Et je pense qu'après le forum minier, qui malheureusement a été initié par le chef de l'État. Pourquoi j'ai dit malheureusement? Parce que ça devait venir du ministère de Mines. C'est là que j'ai rejoint M. Moupépélé qui a dit que le plan minier, qui devait être le plan minier, n'a pas été. Il y a 100 résolutions qui sont sorties de ce forum, coulées sous une matrice qui a été signée par M. Kabouloulou. Et je suis surpris qu'il y ait un audit qui a été fait par un cabinet international et qui reprend les choses qui sont connues et qui les reprennent d'ailleurs sectoriellement. Parce que le secteur des mines, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un secteur à problèmes transversaux. M. Moupépélé a évoqué le problème de la DGDA, le problème de la douane, le problème des impôts. Or, l'audit ne concerne que le ministère des mines. Or, dans le secteur des mines, les intervenants, il n'y a pas que le ministère des mines. Il y a beaucoup de ministères qui ont. Il y a le ministère de la recherche scientifique. Il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées. Quand on lit la matrice qui est sortie du forum de Lubumbashi, je pense qu'on devrait partir de cette matrice-là pour enfin avoir une vision minière comme Al le veut, enfin d'avoir un plan minier comme M. Leonide le veut, plutôt que de retourner, aller dans une réunion pour dilapider les fonds. N'oublions pas que tout l'argent que la Banque mondiale donne, par pour mine ou par quoi que ce soit, c'est de l'argent que l'on prête à la RDC. Cet argent-là devait être repayé. C'est de l'argent qu'on dépense inutilement. Il y a des problèmes qui se posent, qui ont été repris. Noir sur blanc dans la matrice qui a été coulée, qui est sortie de Lubumbashi, et je pense que ça pourrait servir de base aujourd'hui, afin de partir, d'avoir une vision pour la RDC, parce que, comme mes prédécesseurs ont dit, n'oublions pas que l'embellie, les richesses minières ne sont pas renouvelables. L'embellie que nous avons aujourd'hui, on ne l'aura pas demain. Vous vous souvenez que en 2002-2003, la tonne de cuivre était à 1 500 $, vers 2008-2009. D'abord vers 2000, 2006-2007, elle est allée à 6000, 7000. Et vers 2008-2009, on est retombé trop bas. Il en est de même pour d'autres matières précieuses. Hier, l'or avait de beaucoup trop de valeur. Et aujourd'hui, l'or est en train de souffrir. Nous devons investir dans l'avenir. Pour investir dans l'avenir, c'est un problème de gouvernance du secteur. Il faut avoir un plan minier, avoir une vision, comme mes prédécesseurs ont dit. Je pense qu'on devait en arrêter avec les audits comme cela et se poser plutôt sur la base de ce que les Congolais ont fait. Toutes les sections de la vie nationale, tous les intervenants qui étaient réunis à Lubumbashi, on a fait le diagnostic du secteur, on a dit ce qu'il faut faire. C'est couler noir sur blanc dans les 100 résolutions qu'on doit appliquer plutôt que de perdre le temps comme on a fait. Sinon, c'est le ministère de Mines où il n'y a pas de vision, et alors les gens devraient démissionner.
Alors, nous allons prendre pour vous, Franck Famba, cette réaction qui nous vient de Kikwi Tobandundu.
C'est Patrick Ampoulou, étudiant à l'université de Kikwi, à Kikwi dans la province de Bandundu. Le secteur minier posera toujours problème si les dirigeants sont toujours les mêmes. Car ces derniers ne travaillent pas d'abord pour la nation, mais plutôt pour leur propre avantage. Et aussi l'esprit tribaliste a pris place. C'est pourquoi ils engagent même ceux qui ne sont pas du domaine, parce qu'ils sont d'une même tribu. Alors ils travaillent comme dans une entreprise familiale. Bref, c'est un problème d'homme.
Alors parmi les faiblesses contenues dans ce rapport, Franck Famba, il y a le nombre important des nouvelles unités. Comment vous commentez cet aspect?
Pourquoi est-ce qu'il y a le nombre important de nouvelles unités? Je reviens au rapport de la Banque mondiale de 2008. Il y a un problème qui se pose dans le secteur minier aujourd'hui. Alain Léonide, qui est un ingénieur qui a travaillé au ministère de Mines, ne va pas me contredire. Al Kitenge, qui est très bien informé, ne vont pas me, tous les auditeurs ne vont pas me contredire. Aujourd'hui, il y a carence de plus en plus de personnes qualifiées dans le secteur. Quand vous prenez la génération des gens comme Léonide, c'est une génération qui est en train de passer. Quand vous prenez les ingénieurs qu'on avait dans le temps, ils ne sont plus aujourd'hui. Combien d'écoles des mines nous avons aujourd'hui forment les gens? Prenons l'exemple, la faculté des mines de Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, la faculté des mines et géologie. Combien de gens vont là-bas? Et quel est le budget qui est alloué à cette faculté-là? Quelle entreprise minière, par exemple, soutient? Quand vous allez aux États-Unis, vous allez à Colorado, à Denver, dans le Colorado, vous trouvez qu'il y a la grande école, la Colorado School of Mines. Cette école-là est soutenue par toutes les grandes multinationales, dont certaines sont au Congo. Rio Tinto, Vale, Gestibiliton, Freeport McMoRan et les autres. Et j'étais scandalisé de trouver l'année passée à cette école-là que Rand Gold, avec Kibali, était allé recruter des Maliens pour venir travailler dans la province orientale. Pendant que nous avons une faculté de mines à Lubumbashi, pendant qu'à Kinshasa, il y a une faculté, même si je ne suis pas d'accord pour la faculté qui est à l'Unikin, parce qu'on ne peut pas faire les mines dans la théorie. À un moment, les mines, c'est la pratique. Dans le temps, nous avions la GECAMINE, qui avait des centres de formation, qui avait des ateliers et qui avait des écoles qui formaient. Aujourd'hui, ces centres-là sont fermés. En principe, quel est le problème qui se pose? Le problème qui se pose, c'est un problème, comme Léonide a dit, un problème de plan, et comme Al l'a dit, un problème de vision. Quand on a un plan bien clair, quand on a une vision bien claire, on va investir dans l'homme. Pour investir dans l'homme, on va créer des écoles qui peuvent former les hommes qui peuvent travailler. Mais en attendant, parce que les écoles, les créer aujourd'hui, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'il faut? C'est normal qu'il y ait de nouvelles unités, parce que on pose le problème de relève de génération. Il faut qu'il y ait une jeune génération, mais que ce soit une génération qui a un minimum requis, qui a une formation de base requise dans une certaine discipline qui a trait à la gestion, au management. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez des gens qui ont des notions de management, recruter les cabinets, il y a des cabinets spécialisés, il y a des cabinets expérimentés à travers le monde pour renforcer les capacités de ces gens-là. Parce que même si on prend les anciennes unités, si on ne renforce pas la capacité, ça ne va pas tourner. Parce que quand vous allez dans l'industrie du cuivre aujourd'hui, on n'utilise pas tellement la vieille technologie qu'on a utilisée il y a des années, que la GECAMINE utilisait. Aujourd'hui, c'est une autre technologie. En principe, je pense que le renforcement des capacités, la formation, elle est continuelle pour les secteurs vitaux, et pour les secteurs vitaux comme le secteur des mines. C'est normal pour moi qu'il y ait de nouvelles recrues. Et c'est normal aussi qu'on puisse les renforcer et qu'on puisse les former. Je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Comme j'ai dit, le problème, c'est beaucoup plus renforcer les capacités, former les gens, et les anciens et les nouveaux, à la réalité minière pour répondre aux besoins mondiaux du moment.
Merci Franck Fomba. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alkitenge, avant de que vous n'interveniez, nous allons aller en Mbujima et au Kassai Oriental, où les travailleurs de la MIBA se plaignent de la précarité de leur situation socio-économique. Mardi dernier, la délégation syndicale de la minière de Bakwanga a rencontré le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji pour solliciter son intervention. Auprès du comité de gestion de leur entreprise, les travailleurs de la MIBA totalisent 9 mois sans salaire. Ils n'ont pas réussi à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants, indique Christine Mwanza, présidente de la délégation syndicale de la MIBA. Ses propos sont recueillis par Chris Mukand.
À la MIBA, il n'y a pas rentrée scolaire. Comment un parent peut organiser sa rentrée scolaire? C'est pas possible. On est obligé de payer les uniformes, les cahiers, et il va les faire avec quoi? Actuellement, nous avons 9 mois d'impayement. Pour cette année de 2013, la dernière paye a eu lieu au début du mois de juin 2013. Mais c'est une paye de mois de novembre 2012. Donc, c'est-à-dire, en 2013, on n'est jamais payé. Et ce qu'on nous paye là, c'est les 27 000 francs, ce qui fait 30 dollars. Qui peut vivre avec 30 dollars pendant autant de mois? C'est suicidaire. Et ce travailleur est obligé d'être sur chantier chaque jour. Il en revient fatigué, affamé. Ce sont pas des bêtes, ce sont des humains. Et ce comité de gestion récupère l'argent, ils repartent avec ça. C'est pas normal.
Jusque-là, aucune réaction des dirigeants de la MIBA. Par ailleurs, le gouverneur du Kassai Oriental se propose de convoquer tout prochainement une réunion avec le comité de gestion de la MIBA et les représentants des travailleurs. Le but est de tenter de trouver des réponses aux questions soulevées. Alkitenge, tout à l'heure, vous faisiez allusion à la MIBA. Un petit commentaire sur cet aspect.
C'est pathétique que ça vienne de la voix d'une femme, ça fait pleurer. En fait, j'ai envie de dire d'abord que le gouverneur n'a aucune qualité pour donner une réponse à ça. Il n'a même pas les moyens pour le faire. Il faut rester franc avec soi-même. C'est une entreprise mixte. Elle dépend donc du ministère du portefeuille. S'il y a vraiment des gens qui peuvent agir, c'est le gouvernement. En fait, je voudrais dire un petit mot par rapport à la MIBA. La situation de la MIBA aujourd'hui devrait interpeller ce pays. La MIBA a payé l'effort de guerre. La MIBA est morte de son saignement pour soutenir la stabilité de ce pays. Nous avons un devoir de sens humain. Nous avons un devoir de citoyenneté vis-à-vis de la MIBA. Et la MIBA est une véritable honte dans son état pour nous. Parce que la remettre en état, c'est très facile. Je mets ça de côté. Je voudrais revenir sur une intervention tout à l'heure de M. Mopépélé. Il oppose un chiffre à un autre. Je ne suis pas l'émetteur de ce chiffre, mais je voudrais dire simplement une chose. Quel est le chiffre que le chef de l'État, que le gouvernement considère. Aujourd'hui, je pense simplement que, aussi bien son étude que l'étude dont on dit qu'elle a été publiée dans un journal qui n'est pas de grande renommée en Angleterre, devrait être regardée de sorte que nous puissions avoir une évaluation officielle de ce pays. C'est la seule chose qui peut permettre à la République de pouvoir se faire des négociations respectables et solides vis-à-vis des tiers. Ceci dit, moi je pense simplement que la MIBA ou Kisenge Manganèse ou d'autres entreprises qui sont aujourd'hui en état de délabrement avancé, il faudrait se donner un plan de réhabilitation. Parce que derrière ça, c'est toute l'économie du pays et c'est des vies humaines. On ne peut pas penser qu'on peut laisser des potentiels en état de potentiel. C'est une irresponsabilité inacceptable de la part de nous tous. Donc à un moment donné ou à un autre, il faudrait bien qu'on se dise, il est important de se mettre debout et de travailler. 1000% de zéro, c'est zéro.
Denis Ouar, cet internaute, dit le Congo, surtout dans le secteur minier, c'est le flou. Il n'y a aucun espoir parce que c'est le champ des hommes politiques, même si le texte vient du ciel. Tant que leurs intérêts ne s'y trouvent pas, il n'y aura rien de concret à Alkitenge. On est déjà dans les recommandations. Ne faut-il pas espérer?
Il faut absolument espérer. La première des choses qu'il faut toucher, et nous l'avons dit mille et une fois sur vos antennes, c'est le code minier. Le code minier est le premier piège de la grande difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le code minier, il est fait justement pour que nous continuions à faire des petites activités comme nous les faisons aujourd'hui. Il est donc important de l'interroger et de pouvoir être en mesure d'en sortir un code qui détermine la vision, la stabilité dans la pensée et économique du secteur minier. La deuxième des choses, c'est la responsabilité transgénérationnelle. Nous devons avoir une politique qui exploite de manière responsable le secteur minier, mais pour donner les moyens à l'État de réhabiliter l'homme dans son éducation, dans la santé, mais également de moderniser les infrastructures du pays pour qu'il soit facile de faire des activités économiques et donc être plus compétitif. Et je pense simplement que si nous nous projetons dans le temps, si nous nous projetons dans l'avenir, il faudra reconnaître une autre chose, c'est que du fait que nous n'avons pas nécessairement la production du savoir-faire dans notre pays, dans l'état actuel, et du fait que nous n'avons pas accès aux capitaux, la question du développement minier et la question du développement du pays en général est une question transgénérationnelle et c'est une question internationale et il est donc important que nous nous donnions l'agenda.
Léonide de Moupépélé, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Papi Katabika de Bukavu dans la province du sud Kivu. L'État ne maîtrise pas les sites où sont exploités les minerais. Encore moins ne motive pas son personnel affecté dans les sites situés à milieu ruraux, au point que chacun fait ce qu'il veut dès lors qu'il détient son acte d'affectation. Voilà pourquoi il y a un effet à nez dans ce secteur. Les exploitants artisanaux font ce qu'ils veulent et n'ont de compte à rendre qu'aux soi-disant propriétaires des mines qu'on appelle PDG.
Réaction Léonide Moupépélé, on est déjà là aussi dans les recommandations.
Oui, encore une fois, le secteur artisanal, qui est un secteur assez important dans notre pays, il faut bien vous dire que dans ce secteur, il y a pas mal, il y a plus ou moins 1 à 2 millions, voire un peu plus, de personnes qui fonctionnent dans ce secteur. Donc, c'est un secteur extrêmement important. Il existe au niveau du ministère des Mines une série de structures. La plus connue, c'est le CSCAM, qui normalement a pour attribution de l'encadrement de ces artisans. Mais le problème, c'est que, comme on l'a bien dit dans l'audit, c'est que la plupart de ces services ne fonctionnent pas, n'exercent pas leurs véritables attributions. Ils sont détournés par d'autres préoccupations et malheureusement, le CSCAM n'est pas suffisamment présent sur terrain, n'organise pas l'encadrement n'encadre pas suffisamment les artisans. Normalement, on devait retrouver les CSCAM depuis les puits jusque au niveau de la commercialisation, jusqu'au comptoir.
Et donc, il faut revoir ces attributions comme propose l'audit.
Exactement. Donc, il faut revenir aux attributions, aux missions premières de chacune de ces structures, et en ce moment-là. Mais écoutez, encore une fois, comme le Fambala a dit, les mots sont bien connus, mais le problème, c'est la volonté. Est-ce que nous avons la volonté de voir changer les choses? C'est ça le problème.
Franck Famba, en plus de la volonté, les mots sont connus. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement?
Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Je pense que mes collègues au studio, mes collègues débatteurs au studio, ils parlent clairement, ils disent les choses comme on doit les faire. Moi, je résume, j'ai dit qu'il faut aller sur trois axes. Il faut une législation compétitive au niveau national, sous-régional et international. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte que dans la production de l'or, nous avons à côté de nous l'Afrique du Sud, nous avons le Ghana qui sont sur le terrain, et aujourd'hui il y a le Mali, la Côte d'Ivoire et les autres qui sont en train d'évoluer. Il faut tenir compte que dans la production du cuivre et cobalt, nous avons le voisin zambien qui est là et qui est en train de se battre pour que nous ne puissions pas le dépasser, être parmi les top 10. Quand dans la production des diamants, nous devons tenir compte qu'il y a l'Angola qui est en train de pousser son industrie des diamants, il y a la Namibie et les autres. Donc je disais qu'il faut avoir la législation compétitive, il faut obligatoirement renforcer les capacités et améliorer les conditions des agents, des intervenants dans le secteur à tous les niveaux. Parce que si nous prenons par exemple, dernièrement il y avait M. Tabombe, qui est l'ancien président africain, qui était à Kinshasa, pour parler des flux qui s'évadent. Mais les flux qui s'évadent, comment les flux s'évadent? C'est parce qu'à un moment, au niveau de la DGDA, au niveau de la DGI, et au niveau des services qui travaillent parfois à la frontière, c'est-à-dire que les contrôles ne sont pas sévères, vous comprenez. Donc, il faut qu'on renforce les capacités à tous les niveaux, et même au niveau parfois des gestionnaires de ministères. Je pense que les gens doivent renforcer les capacités, afin de comprendre et bien maîtriser le secteur. Il y a aussi un problème de transparence. Le problème de transparence, c'est un problème transversal, comme Aladi, comme Léonide. Tous les problèmes qui sont posés sont des problèmes transversaux. Alors, au lieu de toujours tourner autour du pot, parce que les solutions à l'un, ça fait depuis des années qu'on les cherche. Le code minier qui est, ça a été clair, à la liste, c'est un code minier qui a été imposé. Monsieur Léonide a dit, c'est, effectivement, tout le monde sait comment la Banque mondiale s'était battue pour qu'on ait le code minier. Aujourd'hui, on a le code et nous voulons le réviser. Il faut qu'en révisant le code,
que ça soit une nouvelle base de départ et que le code soit bien révisé. Et je retourne toujours, j'invite toujours à lire la matrice qui est sortie de Lubumbashi, parce que ça a été clair, le chat a été cité par son nom et le chien a été cité par son nom. Tous les problèmes que les auditeurs ont évoqués, les intervenants des inictions des politiciens, des forces armées et consorts, ça a été dit noir sur blanc sur la matrice et on interdit à ceux qui ne sont pas du secteur d'intervenir. On interdit les conflits d'intérêts, comme le code minier le dit à l'article 27. Donc je pense que la volonté, en plus de la volonté, on doit être déterminé. Le géant ne va se relever, devenir un pays émergent, comme le veut bien le Premier ministre, que si déjà à partir de ce soir et de demain matin, on commence à appliquer certaines résolutions qui ont été prises et qu'on mette confiance un peu avec ces audits. On est trop fatigué avec les audits. Le peuple veut voir pratiquement. Qu'est-ce qui se passe pratiquement?
Merci.
C'est ainsi qu'il y a Al qui a évoqué le PIB, qui a évoqué les pays bailleurs, il y a Léonide qui a parlé. Qu'est-ce que ça nous produit notre secteur? Et pourtant, nous avons à peu près 1100 ressources naturelles, plutôt substances naturelles qui sont répertoriées en RDC. Le pays comme le Ghana, il n'y a que l'or, à part l'or, il y a un peu de pétrole. L'Angola n'en a pas autant que nous. Je pense que nous devons nous rendre compte que nous sommes un géant et le géant qui veut vraiment se relever doit tenir compte de tous les facteurs et prendre le courage de faire son autopsie et décider de se mettre debout.
Merci.
Arrêtons les discours, arrêtons tous ces rapports, regardons et agissons.
Merci Franck Fouamba. Je rappelle en passant qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Al-Kitenge, il y a Joël Kasongo qui dit « Voulez-vous me dire qu'après la révision de notre code minier, la mentalité va aussi changer car en RDC, c'est l'impunité qui doit être éradiquée avant tout ?»
Je crois qu'il a raison de s'inquiéter, mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est que si nous modernisons notre arsenal juridique, et y compris l'arsenal juridique du secteur minier qui commence par le code minier, nous avons la chance d'imposer aux exploitants de domicilier financièrement et fiscalement leur entreprise ici. La plupart d'entreprises qui sont ici jouent au jeu de cache-cache avec de l'argent et vous en avez certainement entendu parler. Il y a une deuxième des choses, c'est la gestion des revenus d'exportation. Aujourd'hui, on donne une autorisation aux entreprises du secteur minier, de manière exceptionnelle, de garder à l'étranger les revenus d'exportation. Mais comment voulez-vous que notre secteur bancaire s'améliore si nous détenons toute la trésorerie en dehors du pays? C'est quelque chose que je ne comprends pas. La troisième des choses, c'est la vérité des coûts. Les entreprises minières sont des spécialistes dans le jeu de cache-cache et cachent les véritables coûts d'exploitation. Ils les grossissent pour réduire en vérité leur profitabilité et donc les taxes qu'ils sont censés payer ici en travaillant sur des entreprises sœurs avec lesquelles ils font du commerce régulier. Et je pense que si l'État est sérieux, si l'État se dote des mécanismes de vérification, il y a moyen de pouvoir avancer. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est le secteur artisanal. Mon débatteur tout à l'heure, M. Moupé, Pélé faisait allusion à 1 million, 2 millions. On est au-delà de 3 millions de personnes. C'est de loin plus que notre armée et notre police mises ensemble. C'est des gens qui travaillent dans des conditions d'une pénibilité incroyable. C'est des gens qui sont en état d'animal. Nous devrons à un moment donné nous rendre compte que nous n'avons pas le droit d'assister à ça de manière impuissante et de rester indifférent.
Léonide Moupé-Pélé, il faut déjà presque conclure. Franck Fouamba parlait d'une législation sur le plan national, régional, sous-régional, mais avec la situation que connaît la RDC aujourd'hui et également le problème de militarisation du secteur minier. Comment résoudre ça?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui minent le secteur minier, on ne le dira jamais assez, mais est-ce que la solution est-elle dans la révision de la législation existante? J'en doute. J'en doute dans la mesure où le code minier actuel n'est déjà pas appliqué dans sa totalité. Si ce code était appliqué dans sa totalité, il y aurait beaucoup de choses qui iraient dans le bon sens. Malheureusement, le code, il y a juste quelques articles qui sont mis en application, le reste c'est ignoré. C'est ça le vrai problème. Donc, je crains fort, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas bien. Franck Fouamba l'a souligné, Al Kitenge l'a souligné, et qu'il faut revoir certaines dispositions du code, là c'est vrai.
Et en même temps,
je ne voudrais pas de l'autre côté que nous puissions penser qu'il suffit d'échanger ces dispositions du code et demain le secteur minier ira beaucoup mieux. Je le dis non, parce que au départ il faut la volonté des hommes, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait une vision, et par rapport à ça on peut améliorer les choses. Mais merci. Si on ne fait que changer les textes juridiques, on s'arrêtera là, il n'y aura rien de changé sur terre.
Franck Fomba, en conclusion.
En conclusion, c'est que je pense qu'en joignant les efforts ensemble, on peut mieux faire. Le gouvernement a des partenaires. Les partenaires sont les multinationales, les entreprises qui sont dans le secteur de mine. Pour exemple, au Qatar aujourd'hui, par exemple, vous avez une entreprise comme Taïg qui investit dans la formation des ingénieurs de mine à l'université de Lubumbashi. Vous avez NSC qui a un programme de formation, des centres de formation comme en fut la Gécamine. Je pense qu'ensemble, on peut mieux faire. Léonide n'a pas tort, effectivement. Je suis des ceux-là qui ont toujours dit que le code minier, on doit l'appliquer avant de le revoir. Mais écoutez, si les gens, la majorité dit, ça c'est leur affaire. Je suis des ceux-là qui ne soutiennent jamais l'artisanat minier. Pour moi, si on applique bien le code, on gère bien nos ressources. Si chaque citoyen, et c'est là que chaque citoyen doit apprendre les leçons de la nouvelle citoyenneté. Merci. Si chaque citoyen fait son travail, chacun va se retrouver, on n'aura pas besoin de l'artisanat. Et
merci.
Pour terminer, pour conclure,
merci
pour
Franck Fomba.
Merci
Franck Fomba. Désolé, Alki Tengue, un mot pour terminer.
Je pense que le code minier est trop faible et on a raison de l'interroger. Mais trois choses importantes. Il nous faut une vision, il nous faut de la discipline d'exécution et il nous faut une surveillance citoyenne.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Kevin Kouté, Samuel Kachak, Héritier Sidiakala, Bob Landou, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Présentation et coordination, Alain Hiro-Mouchige, vous nous avez suivis. Merci de votre attention.